Chapitre 2. Ce mot détermina parmi nous tous ce mouvement imperceptible que les journalistes peignent ainsi dans les discours parlementaires, profonde sensation. Guéri de mon rhume et de l'amour pur, absolu, divin, je me laissais aller à une aventure dont l'héroïne était charmante et d'un genre de beauté tout opposé à celui de mon ange trompeur. Je me gardais bien de rompre avec cette femme si forte et si bonne comédienne, car je ne sais pas si le véritable amour donne d'aussi gracieuses jouissances qu'en prodigue une si savante tromperie. Une pareille hypocrisie vaut la vertu. Je ne dis pas cela pour vous autres, anglaise, milady, s'écria doucement le ministre en s'adressant à Lady Barrymore, fille de Lord Dudley. Enfin, je tâchais d'être le même amoureux. J'eus à faire travailler pour mon nouvel ange quelques mèches de mes cheveux, et j'allais chercher un habile artiste qui, dans ce temps, demeurait rue Boucher. Cet homme avait le monopole des présents capillaires, et je donne son adresse pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Il en a de tous les genres et de toutes les couleurs. Après s'être fait expliquer ma commande, il me montra ses ouvrages. Je vis alors des œuvres de patience qui surpassent ce que les contes attribuent aux fées et ce que font les forçats. Il me mit au courant des caprices et des modes qui régissaient la partie des cheveux. « Depuis un an, me dit-il, on a eu la fureur de marquer le linge en cheveux. Et heureusement, j'avais de belles collections de cheveux et d'excellentes ouvrières. » En entendant ces mots, je suis atteint par un soupçon. Je tire mon mouchoir et je lui dis « En sorte que ceci s'est fait chez vous, avec de faux cheveux ?» Il regarde mon mouchoir et dit « Oh, cette dame était bien difficile. Elle a voulu vérifier la nuance de ses cheveux. Ma femme a marqué ces mouchoirs-là elle-même. Ah, vous savez là, monsieur, une des plus belles choses qui se soit exécutée. » Avant ce dernier trait de lumière, j'avais cru à quelque chose. J'aurais fait attention à la parole d'une femme. Je sortis, ayant foi dans le plaisir, mais en fait d'amour, je devins athée comme un mathématicien. 2 mois après, j'étais assis auprès de la femme éthérée, dans son boudoir, sur son divan. Je tenais l'une de ses mains, elle les avait fort belles, et nous gravissions les Alpes du sentiment, cueillant les plus jolies fleurs et feuillant des marguerites. Il y a toujours un moment où l'on effeuille des marguerites, même quand on est dans un salon et qu'on n'a pas de marguerites. Au plus fort de la tendresse, et quand on s'aime le mieux, l'amour a si bien la conscience de son peu de durée qu'on éprouve un invincible besoin de se demander « M'aimes-tu, m'aimeras-tu toujours ?» Je saisis ce moment élégiaque, si tiède, si fleuri, si épanoui, pour lui faire dire ses plus beaux mensonges dans le ravissant langage de ses exagérations spirituelles et de cette poésie gasconne particulière à l'amour. Elle étala la fine fleur de ses tromperies. Elle ne pouvait pas vivre sans moi. J'étais le seul homme qu'il y eût pour elle au monde. Elle avait peur de m'ennuyer parce que ma présence lui ôtait tout son esprit. Près de moi, ses facultés devenaient tout amour. Elle était d'ailleurs trop tendre pour ne pas avoir des craintes. Elle cherchait depuis 6 mois le moyen de m'attacher éternellement. Et il n'y avait que Dieu qui connaissait ce secret-là. Enfin, elle faisait de moi son Dieu. Les femmes qui entendaient alors de Marsay parurent offensées en se voyant si bien jouer, car il accompagna ses mots par des mines, par des poses de tête et des minauderies qui faisaient illusion. au moment où j'allais croire à ces adorables faussetés, lui tenant toujours sa main moite dans la mienne, je lui dis « Quand épouses-tu le duc ?» Oh, ce coup de poing était si direct, mon regard si bien affronté avec le sien, et sa main si doucement posée dans la mienne, que son tressaillement, si léger qu'il fût, ne put être entièrement dissimulé. Son regard fléchit sous le mien, une faible rougeur nuança ses joues. Le duc, que voulez-vous dire? Répondit-elle en feignant un profond étonnement. Je sais tout, repris-je, et dans mon opinion, vous ne devez plus tarder. Il est riche, il est duc, mais il est plus que dévot, il est religieux. Aussi, je suis certain que vous m'avez été fidèle grâce à ses scrupules. Vous ne sauriez croire combien il est urgent pour vous de le compromettre vis-à-vis de lui-même et de Dieu. Sans cela, vous n'en finiriez jamais. Est-ce un rêve ? Dit-elle en faisant sur ses cheveux au-dessus du front, 15 ans avant la Malibran, le si célèbre geste de la Malibran. « Allons, ne veux pas l'enfant, mon ange, lui dis-je, en voulant lui prendre les mains. » Mais elle se croisa les mains sur la taille avec un petit air prude et courroucé. « Épousez-le ! Je vous le permets, repris-je en répondant à son geste par le « vous » de salon. Il y a mieux, je vous y engage. Mais, dit-elle en tombant à mes genoux, il y a quelque horrible méprise. Je n'aime que toi dans le monde. Tu peux m'en demander les preuves que tu voudras.
Enlevez-vous, ma chère, et faites-moi l'honneur d'être franche. Comme avec Dieu.
Doutez-vous de mon amour?
« Non.
De ma fidélité ?
Non.
Eh bien,
j'ai commis le plus grand des crimes, repris-je. J'ai douté de votre amour et de votre fidélité.
Entre deux ivresses, je me suis mis à regarder tranquillement autour de moi. « Tranquillement ? » s'écria-t-elle en soupirant. « Ah, voilà bien assez, Henri. Vous ne m'aimez plus. » Elle avait déjà trouvé, comme vous le voyez, une porte pour s'évader. Dans ces sortes de scènes, un adverbe est bien dangereux. Mais heureusement, la curiosité lui fit ajouter « Et qu'avez-vous vu ? Ai-je jamais parlé au duc autrement que dans le monde ? Avez-vous surpris dans mes yeux ? Non, 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 dis-je, mais dans les siens. Et vous m'avez fait aller 8 fois à Saint-Thomas d'Aquin vous voir entendant la même messe que lui. Ah ! S'écria-t-elle enfin, je vous ai donc rendu jaloux.
Oh ! Je voudrais bien être, lui dis-je en admirant la souplesse de cette vive intelligence et ces tours d'acrobate qui me réussissent que devant des aveugles. Mais à force d'aller à l'église, je suis devenu très incrédule.
Le jour de mon premier rhume et de votre première tromperie, quand vous m'avez cru au lit, vous avez reçu le duc et vous m'avez dit n'avoir vu personne. Savez-vous que votre conduite est infâme ?
En quoi ? Je trouve que votre mariage avec le duc est une excellente affaire. Il vous donne un beau nom, la seule position qui vous convienne, une situation brillante, honorable. Vous serez l'une des reines de Paris. J'aurais des torts envers vous si je mettais un obstacle à cet arrangement, à cette vie honorable, à cette superbe alliance. Ah, quelques jours, Charlotte, vous me rendrez justice en découvrant combien mon caractère est différent de celui des autres jeunes gens. Vous allez être forcée de me tromper. Oui, vous eussiez été très embarrassée de rompre avec moi, car il vous épie. Il est temps de nous séparer. Le duc est d'une vertu sévère.
Il faut que vous deveniez prude, je vous le conseille. Le duc est vain, il sera fier de sa femme. Oh, me dit-elle en fondant en larmes, Henri, si tu avais parlé, oui, si tu l'avais voulu, j'avais tort, comprenez-vous. Nous fussions allés vivre toute notre vie dans un coin, mariés, heureux, à la face du monde. Enfin, il est trop tard, repris-je en lui baisant les mains et prenant un petit air de victime. Mon Dieu, mais je puis tout défaire, reprit-elle. Ah non, non, vous êtes trop avancé avec le duc. Je dois même faire un voyage pour nous mieux séparer. Nous aurions à craindre l'un et l'autre notre propre amour. Croyez-vous, Henri, que le duc ait des soupçons? J'étais encore Henri, mais j'avais toujours perdu le tu. Oh, je ne le pense pas, répondis-je en prenant les manières et le ton d'un ami, mais soyez tout à fait dévote, réconciliez-vous avec Dieu, car le duc attend des preuves, il hésite, et il faut le décider. Elle se leva, fit deux fois le tour de son boudoir dans une agitation véritable ou feinte, puis elle trouva sans doute une pause et un regard en harmonie avec cette situation nouvelle, car elle s'arrêta devant moi, me tendit la main et me dit d'un son de voix ému « Eh bien, Henri, vous êtes un loyal, un noble et charmant homme. Je ne vous oublierai jamais. » Ce fut d'une admirable stratégie. Elle fut ravissante dans cette transition nécessaire à la situation dans laquelle elle voulait se mettre vis-à-vis de moi. Je pris l'attitude, les manières et le regard d'un homme si profondément affligé que je vis sa dignité trop récente mollir. Elle me regarda, me prit par la main, m'attira, me jeta presque, mais doucement, sur le divan, et me dit après un moment de silence « Je suis profondément triste, mon enfant. Vous m'aimez ?»« Oh, oui. Eh bien alors, qu'allez-vous devenir ?» Ici, toutes les femmes échangèrent un regard. Si j'ai souffert encore en me rappelant sa trahison, je ris encore de l'air d'intime conviction de douce satisfaction intérieure qu'elle avait, sinon de ma mort, du moins d'une mélancolie éternelle, reprit de Massé. « Oh, ne riez pas encore, dit-il aux convives, il y a mieux. » Je la regardai très amoureusement après une pause et lui dis « Oui, voilà ce que je me suis demandé. Eh bien, que ferez-vous ? Je me le suis demandé le lendemain de mon rhume. Et, dit-elle avec une visible inquiétude, et je me suis mis en mesure auprès de cette petite dame à qui j'étais censé faire la cour. Charlotte se dressa de dessus le divan comme une biche surprise, trembla comme une feuille, me jeta l'un de ces regards dans lesquels les femmes oublient toute leur dignité, toute leur pudeur, leur finesse, leur grâce même, l'étincelant regard de la vipère poursuivie, forcée dans son coin, et me dit « Et moi, qui t'aimais, moi qui combattais, moi qui... » Elle fit sur la troisième idée que je vous laisse à deviner le plus beau point d'orgue que j'ai entendu. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, « sommes-nous malheureuses ? Nous ne pouvons jamais être aimées. Il n'y a jamais rien de sérieux pour vous dans les sentiments les plus purs. Mais allez, quand vous friponnez, vous êtes encore nos dupes. Je le vois bien, dis-je d'un air contrit. Vous avez beaucoup trop d'esprit dans votre colère pour que votre cœur en souffre. Cette modeste épigramme redoubla sa fureur. Elle trouva des larmes de dépit. Oh, vous me déshonorez le monde et la vie, dit-elle. Vous m'enlevez toutes mes illusions. Vous me dépravez le cœur. Elle me dit tout ce que j'avais le droit de lui dire avec une simplicité d'effronterie, avec une témérité naïve qui, certes, eût cloué sur place un autre homme que moi. Qu'allons-nous être, pauvres femmes, dans la société que vous fait la charte de Louis XVIII? Jugez jusqu'où l'avait entraîné sa phraséologie. Oui, nous sommes nés pour souffrir. En fait de passion, nous sommes toujours au-dessus et vous au-dessous de la loyauté. Vous n'avez rien d'honnête au cœur. Pour vous, l'amour est un jeu où vous trichez toujours. Cher, lui dis-je, prendre quelque chose au sérieux dans la société actuelle, ce serait filer le parfait amour avec une actrice. Quelle infâme trahison! Elle a été raisonnée, non, raisonnable. Adieu, monsieur de Marsay, dit-elle. Vous m'avez horriblement trompé. Madame la duchesse, répondis-je en prenant une attitude soumise, se souviendra-t-elle donc des injures de Charlotte? Certes, dit-elle d'un ton amer, ainsi vous me détestez. Elle inclina la tête, et je me dis en moi-même, il y a de la ressource. Je partis sur un sentiment qui lui laissait croire qu'elle avait quelque chose à venger. Eh bien, mes amis, j'ai beaucoup étudié la vie des hommes qui ont eu des succès auprès des femmes, mais je ne crois pas que ni le maréchal de Richelieu, ni Lauzun, ni Louis de Valois aient jamais fait pour la première fois une si savante retraite. Quant à mon esprit et à mon cœur, ils se sont formés là pour toujours, et l'empire qu'alors j'ai su conquérir sur les mouvements irréfléchis qui nous font faire tant de sottises m'a donné ce beau sang-froid que vous connaissez. Oh, combien je plains la seconde, dit la baronne de Nucingen. Un sourire imperceptible qui vint effleurer les lèvres pâles de Marsay, fit rougine Delphine de Nucingen. Gommeum lupli, s'écria le baron de Nucingen. La naïveté du célèbre banquier eut un tel succès que sa femme, qui fut cette seconde de Marsay, ne put s'empêcher de rire comme tout le monde. Vous êtes tous disposés à condamner cette femme, dit Lady Dudley. Eh bien, je comprends. Comment elle ne considérait pas son mariage comme une inconstance? Les hommes ne veulent jamais distinguer entre la constance et la fidélité. Je connais la femme de qui M. de Marsay nous a conté l'histoire. Et c'est une de vos dernières grandes dames. Hélas, Milady, vous avez raison, reprit de Marsay. Depuis 50 ans bientôt, nous assistons à la ruine continue de toutes les distinctions sociales. Nous aurions dû sauver les femmes de ce grand naufrage, mais le code civil a passé sur leur tête le niveau de ses articles. Quelque terribles que soient ces paroles, disons-les, les duchesses s'en vont, et les marquises aussi. Quant aux baronnes, j'en demande le pardon à madame de Nucingen, qui se fera comtesse quand son mari deviendra pair de France. Les baronnes n'ont jamais pu se faire prendre au sérieux. L'aristocratie commence à la vicomtesse, dit Blondet en souriant. Les comtesses resteront, reprit de Marsay. Une femme élégante sera plus ou moins comtesse, comtesse de l'Empire ou d'hier, comtesse de vieille roche, ou comme on dit en italien, comtesse de politesse. Mais quant à la grande dame, elle est morte avec l'entourage grandiose du dernier siècle, avec la poudre, les mouches, les mules à talons, les corsets brusqués ornés d'un delta de nœuds en ruban. Les duchesses d'aujourd'hui passent par les portes sans qu'il soit besoin de les faire élargir pour leur panier. Enfin, l'Empire a vu les dernières robes à queue. Je suis encore à comprendre comment le souverain, qui voulait faire balayer sa cour par le satin ou le velours des robes ducales, n'a pas établi pour certaines familles le droit d'aînesse par d'indétructibles lois. Napoléon n'a pas deviné les effets de ce code qui le rend si fier. Cet homme, en créant ses duchesses, engendrait nos femmes, comme il faut aujourd'hui, le produit immédiat de sa législation. La pensée prise comme un marteau et par l'enfant qui sort du collège et par le journaliste obscur a démoli les magnificences de l'état social, dit le marquis de Vandenesse. Aujourd'hui, tout drôle qui peut convenablement soutenir sa tête sur un col, couvrir sa puissante poitrine d'homme d'une demi-aune de satin en forme de cuirasse, montrer un front où reluise un génie apocryphe sous des cheveux bouclés, se dandiner sur deux escarpins vernis ornés de chaussettes en soie qui coûtent 6 francs, tient son lorgnon dans une de ses arcades sourcilières, en plissant le haut de sa joue, et fut-il clair d'avouer, fils d'entrepreneur ou bâtard de banquier, il toise impertinemment la plus jolie duchesse, l'évalue quand elle descend l'escalier d'un théâtre, et dit à son ami habillé par Buisson, chez qui nous nous habillons tous, et monté sur Verny comme le premier duc venu. « Ah, voilà, mon cher, une femme comme il faut !» Vous n'avez pas su, dit Lord Dudley, devenir un parti. Vous n'aurez pas de politique d'ici longtemps. En France, vous parlez beaucoup d'organiser le travail et vous n'avez pas encore organisé la propriété. Voici donc ce qui vous arrive. Un duc quelconque, il s'est rencontré encore sous Louis XIII ou sous Charles X, qui possédait 200 000 livres de rente, un magnifique hôtel, un domestique somptueux. Ce duc pouvait se conduire en grand seigneur. Le dernier de ces grands seigneurs français est le prince de Talleyrand. Ce duc laisse 4 enfants, dont 2 filles. En supposant beaucoup de bonheur dans la manière dont il les a mariés tous, chacun de ces Ouars n'a plus que 60 ou 80 000 livres de rente aujourd'hui. Chacun d'eux est père ou mère de plusieurs enfants, conséquemment obligé de vivre dans un appartement, au rez-de-chaussée ou au premier étage d'une maison avec la plus grande économie. Qui sait même s'il ne quête pas une fortune. Dès lors, la femme du fils aîné, qui n'est duchesse que de nom, n'a ni sa voiture, ni ses gens, ni sa loge, ni son temps à elle. Elle n'a ni son appartement dans son hôtel, ni sa fortune, ni ses babioles. Elle est enterrée dans le mariage, comme une femme de la rue Saint-Denis l'est dans son commerce. Elle achète les bas de ses chers petits-enfants, les nourrit et surveille ses filles, qu'elle ne met plus au couvent. Vos femmes les plus nobles sont ainsi devenues d'estimables couveuses. Hélas, oui, dit Blondet, notre époque n'a plus ces belles fleurs féminines qui ont orné les grands siècles de la monarchie française. L'éventail de la grande dame est brisé. La femme n'a plus à rougir, à médire, à chuchoter, à se calmer, à se montrer. L'éventail ne sert plus qu'à s'éventer. Quand une chose n'est plus que ce qu'elle est, elle est trop utile pour appartenir au luxe.
Ah, tout en France a été complice de la femme, comme il faut, dit Madame d'Espard. L'aristocratie a consenti, par sa retraite au fond de ses terres, où elle est allée se cacher pour mourir, émigrant à l'intérieur, devant les idées, comme jadis à l'étranger devant les masses populaires. Les femmes qui pouvaient fonder des salons européens, commander l'opinion, la retourner comme un gant, dominer le monde en dominant les hommes d'art ou de pensée qui devaient la dominer, ont commis la faute d'abandonner le terrain, honteuses d'avoir à lutter avec une bourgeoisie enivrée de pouvoir et débouchant sur la scène du monde pour s'y faire peut-être hacher en morceaux par les barbares qui la talonnent. Aussi, là où les bourgeois veulent avoir des princesses, n'aperçoit-on que de jeunes personnes comme il faut. Aujourd'hui, les princes ne trouvent plus de grandes dames à compromettre. Ils ne peuvent même plus illustrer une femme prise au hasard. Le duc de Bourbon est le dernier prince qui ait usé de ce privilège.
Et Dieu sait seul ce qui lui en coûte, dit Lord Dudley. Aujourd'hui, les princes ont des femmes comme il faut. Obligés de payer en commun leur loge avec des amis, et que la faveur royale ne grandirait pas d'une ligne qui file sans éclat entre les eaux de la bourgeoisie et celle de la noblesse, ni tout à fait noble, ni tout à fait bourgeoise, dit amèrement la comtesse de Montcornet.
La presse a hérité de la femme, s'écria le marquis de Vandenesse. La femme n'a plus le mérite du feuilleton parlé, des délicieuses médisances ornées de beaux langages. Nous lisons des feuilletons écrits dans un patois qui change tous les 3 ans, de petits journaux plaisants comme des croque-morts et légers comme le plomb de leur caractère. Les conversations françaises se font en Iroquois révolutionnaires d'un bout à l'autre de la France pour par de longues colonnes imprimées dans des hôtels où grince une presse à la place des cercles élégants qui brillaient jadis.
L'éclat de la haute société sonne, entendez-vous, dit un prince russe, et le premier coup est votre mot moderne de femme comme il faut.
Vous avez raison, mon prince, dit de Marsay. Cette femme, sortie des rangs de la noblesse ou poussée de la bourgeoisie, venue de tout terrain, même de la province, est l'expression du temps actuel, une dernière image du bon goût, de l'esprit, de la grâce, de la distinction réunie. Mais amoindrie. Nous ne verrons plus de grandes dames en France, mais il y aura pendant longtemps des femmes comme il faut, envoyées par l'opinion publique dans une haute chambre féminine, et qui seront pour le beau sexe ce qu'est le gentleman en Angleterre. Et ils appellent cela être en progrès, dit Mademoiselle des Touches. Oh, je voudrais savoir où est le progrès.
Ah, mais le voici, dit Madame de Nucingen. Autrefois, une femme pouvait avoir une voix de harangère, une démarche de grenadier, un front de courtisane audacieuse, les cheveux plantés en arrière, le pied gros, la main épaisse. Elle était néanmoins une grande dame. Mais aujourd'hui, fût-elle une Montmorency? Si les demoiselles de Montmorency pouvaient jamais être ainsi, elles ne seraient pas une femme comme il faut. Qu'entendez-vous par une femme comme il faut ? Demanda naïvement le contadant Laginski. C'est une création moderne, un déplorable triomphe du système électif appliqué au beau sexe, dit le ministre. Chaque révolution a son mot, un mot où elle se résume et qui la peint. Vous avez raison, dit le prince russe, qui était venu se faire une réputation littéraire à Paris. Expliquer certains mots, ajouter de siècle en siècle à votre belle langue, ce serait faire une magnifique histoire, organisée par exemple un mot de l'Empire et qui contient Napoléon tout entier. Mais tout cela ne me dit pas ce qu'est une femme comme il faut. Eh bien, je vais vous l'expliquer, répondit Émile Blondet, un jeune comte polonais. Par une jolie matinée, vous flânez dans Paris. Il est plus de 2 heures, mais 5 heures ne sont pas sonnées. Vous voyez venir à vous une femme, le premier coup d'œil jeté sur elle est comme la préface d'un beau livre. Il vous fait pressentir un monde de choses élégantes et fines. Comme le botaniste à travers Montsevo de son herborisation, parmi les vulgarités parisiennes, vous rencontrez enfin une fleur rare. Où cette femme est accompagnée de 2 hommes très distingués, dont l'un au moins est décoré, ou quelques domestiques en petite tenue la suit à 10 pas de distance. Elle ne porte ni couleurs éclatantes, ni bas à jour, ni boucles de ceinture trop travaillées, ni pantalons à manchettes brodées, bouillonnant autour de sa cheville. Vous remarquez à ses pieds, soit des souliers de prunelle à cothurnes croisés sur un bas de coton d'une finesse excessive ou sur un bas de soie unie de couleur grise, soit des brodequins de la plus exquise simplicité. Une étoffe assez jolie et d'un prix médiocre vous fait distinguer sa robe dont la façon surprend plus d'une bourgeoise. Ses prestiges, toujours, une redingote attachée par des nœuds et mignonnement bordée d'une ganse ou d'un filet imperceptible. L'inconnue a une manière à elle de s'envelopper dans un châle ou dans une mante. Elle sait se prendre de la chute des reins au cou en dessinant une sorte de carapace qui changerait une bourgeoise en tortue, mais sous laquelle elle vous indique les plus belles formes tout en les voilant. Par quels moyens ? Ce secret, elle le garde, sans être protégée par aucun brevet d'invention. Elle se donne par la marche un certain mouvement concentrique et harmonieux qui fait frissonner sous l'étoffe sa forme suave ou dangereuse, comme à midi la couleuvre sous la gaze verte de son herbe frémissante. Doit-elle à un ange ou à un diable cette ondulation gracieuse qui joue sous la longue chape de soie noire, en agite la dentelle au bord, répand un baume aérien et que je nommerais volontiers la brise de la Parisienne? Vous reconnaîtrez sur les bras, à la taille, autour du cou, une science de plis qui drape la plus rétive étoffe de manière à vous rappeler la mnémosyne antique. Ah, comme elle entend, passez-moi cette expression, la coupe de la démarche. Examinez bien cette façon d'avancer le pied en moulant la robe avec une si décente précision qu'elle excite chez le passant une admiration mêlée de désir, mais comprimée par un profond respect. Quand une Anglaise essaie de ce pas, elle a l'air d'un grenadier qui se porte en avant pour attaquer une redoute. Ah, la femme de Paris, le génie de la démarche! Aussi la municipalité lui devait-elle l'asphalte des trottoirs. Cette inconnue ne heurte personne.
Pour passer, elle attend avec une orgueilleuse modestie qu'on lui fasse place. La distinction particulière aux femmes bien élevées se trahit surtout par la manière dont elle tient le châle ou la mante croisée sur sa poitrine. Elle vous a, tout en marchant, un petit air digne et serein, comme les madones de Raphaël dans leur cadre. Sa pose, à la fois tranquille et dédaigneuse, oblige le plus insolent dandy à se déranger pour elle. Le chapeau, d'une simplicité remarquable, a des rubans frais. Peut-être y aura-t-il des fleurs, mais les plus habiles de ces femmes n'ont que des nœuds. La plume veut la voiture, les fleurs attirent trop le regard. Là-dessous, vous voyez la figure fraîche et reposée d'une femme sûre d'elle-même, sans fatuité, qui ne regarde rien et voit tout, dont la vanité blasée par une continuelle satisfaction répand sur sa physionomie une indifférence qui pique la curiosité. Elle sait qu'on l'étudie, elle sait que presque tous, même les femmes, se retournent pour la revoir. Aussi traverse-t-elle Paris comme un fil de la Vierge, blanche et pure. Cette belle espèce affectionne les latitudes les plus chaudes, les longitudes les plus propres de Paris. Vous la trouverez entre la 10e et la 110e arcade de la rue de Rivoli, sous la ligne des boulevards, depuis l'équateur des panoramas où fleurissent les productions des Indes, où s'épanouissent les plus chaudes créations de l'industrie, jusqu'au cap de la Madeleine. Dans les contrées les moins crottées de la bourgeoisie, entre le 30e et le 150e numéro de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Durant l'hiver, elle se plaît sur la terrasse des feuillants et point sur le trottoir en bitume qui l'allonge. Selon le temps, elle vole dans l'allée des Champs-Élysées, bordée à l'est par la place Louis XV, à l'ouest par l'avenue de Marigny, au midi par la chaussée, au nord par les jardins du faubourg Saint-Honoré. Jamais vous ne rencontrerez cette jolie variété de femmes dans les régions hyperboréales de la rue Saint-Denis, jamais dans les Kamchatka des rues boueuses, petites ou commerciales, jamais nulle part, le mauvais temps. Ces fleurs de Paris, écloses par un temps oriental, parfument les promenades, et, passées 5 heures, se replient comme les belles de jour. Les femmes que vous verrez plus tard, ayant un peu de leur air, essayant de les singer, sont des femmes comme il en faut, tandis que la belle inconnue, votre Béatrice de la journée, est la femme comme il faut. Il n'est pas facile pour les étrangers, cher comte, de reconnaître les différences auxquelles les observateurs émérites les distinguent, tant la femme est comédienne. Mais elle crève les yeux aux Parisiens. C'est des agrafes mal cachées, des cordons qui montrent leur lacis d'un blanc roux au dos, de la robe par une fente entrebâillée, des souliers éraillés, des rubans de chapeau repassés, une robe trop bouffante, une tournure trop gommée. Vous remarquerez une sorte d'effort dans l'abaissement prémédité de la paupière. Il y a de la convention dans la pose. Quant à la bourgeoise, il est impossible de la confondre avec la femme comme il faut. Elle l'a fait admirablement ressortir, elle explique le charme que vous a jeté votre inconnue. La bourgeoise est affairée, sort par tous les temps, trotte, va, vient, regarde, ne sait pas si elle entrera, si elle n'entrera pas dans un magasin. Là où la femme comme il faut sait bien ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, la bourgeoise est indécise, retrousse sa robe pour passer un ruisseau, traîne avec elle un enfant qui l'oblige à guetter les voitures. Elle est mère en public et cause avec sa fille. Elle a de l'argent dans son cabas et des bajoux aux pieds. En hiver, elle a un bohet, par-dessus une pèlerine en fourrure, un châle et une écharpe en été. La bourgeoise entend admirablement les pléonasmes de toilette. Votre belle promeneuse, vous la retrouverez aux Italiens, à l'opéra, dans un bal. Elle se montre alors sous un aspect si différent que vous diriez deux créations sans analogie. La femme est sortie de ses vêtements mystérieux comme un papillon de sa larve soyeuse. Elle sert comme une friandise à vos yeux ravis les formes que le matin son corsage modelait à peine. Au théâtre, elle ne dépasse pas les secondes loges, excepté aux Italiens. Vous pourrez alors étudier à votre aise la savante lenteur de ses mouvements. L'adorable trompeuse use des petits artifices politiques de la femme avec un naturel qui exclut toute idée d'art et de préméditation. A-t-elle une main royalement belle, le plus fin croira qu'il était absolument nécessaire de crouler, de remonter ou d'écarter celle de ses ringlets ou de ses boucles qu'elle caresse. Si elle a quelque splendeur dans le profil, il vous paraîtra qu'elle donne de l'ironie ou de la grâce à ce qu'elle dit aux voisins en se posant de manière à produire ce magique effet de profil perdu tant affectionné par les grands peintres qui attire la lumière sur la joue, dessine le nez par une ligne nette, illumine le rose des narines, coupe le front à vive arête, laisse au regard sa paillette de feu, mais dirigée dans l'espace, et pique d'un trait de lumière la blanche rondeur du menton. Si elle a un joli pied, elle se jettera sur un divan avec la coquetterie d'une chatte au soleil, les pieds en avant, sans que vous trouviez à son attitude autre chose que le plus délicieux modèle donné par la lassitude à la statuaire. Il n'y a que la femme comme il faut pour être à l'aise dans sa toilette. Rien ne la gêne. Vous ne la surprendrez jamais comme une bourgeoise à remonter une épaulette récalcitrante, à faire descendre un busque insubordonné, à regarder si la gorgerette accomplit son office de gardien infidèle autour de deux trésors étincelants de blancheur, à se regarder dans les glaces pour savoir si la coiffure se maintient dans ses quartiers. Sa toilette est toujours en harmonie avec son caractère. Elle a eu le temps de s'étudier, de décider ce qui lui va bien, car elle connaît depuis longtemps ce qui ne lui va pas. Vous ne la verrez pas à la sortie, elle disparaît avant la fin du spectacle. Si par hasard elle se montre calme et noble sur les marches rouges de l'escalier, elle éprouve alors des sentiments violents. Elle est là par ordre, elle a quelques regards furtifs à donner, quelques promesses à recevoir. Peut-être descend-elle ainsi lentement pour satisfaire la vanité d'un esclave auquel elle obéit parfois. Si votre rencontre a lieu dans un bal ou dans une soirée, vous recueillerez le miel affecté ou naturel de savoir user. Vous serez ravi de sa parole vide, mais à laquelle elle saura communiquer la valeur de la pensée par un manège inimitable. Mais pour être femme comme il faut, n'est-il pas nécessaire d'avoir de l'esprit ? Demanda le comte polonais. Il est impossible de l'être sans avoir beaucoup de goût, répondit madame d'Espard. Et en France, avoir du goût, c'est avoir plus que de l'esprit, dit le russe.
L'esprit de cette femme est le triomphe d'un art tout plastique, reprit Blondet. Vous ne saurez pas ce qu'elle a dit, mais vous serez charmé.
Elle aura hoché la tête ou gentiment haussé ses blanches épaules. Elle aura doré une phrase insignifiante par le sourire d'une petite mouche charmante, ou a mis l'épigramme de Voltaire dans un « hein », dans un « ah », dans un « et donc ». Un air de tête sera la plus active interrogation. Elle donnera de la signification au mouvement par lequel elle fait danser une cassolette attachée à son doigt par un anneau. C'est des grandeurs artificielles obtenues par des petitesses superlatives. Elle a fait retomber noblement sa main en la suspendant au bras du fauteuil comme des gouttes de rosée à la marge d'une fleur. Et tout a été dit. Elle a rendu un jugement sans appel à émouvoir le plus insensible. Elle a su vous écouter, elle vous a procuré l'occasion d'être spirituel, et j'en appelle à votre modestie. Ces moments sont rares. L'air candide du jeune Polonais à qui Blondet s'adressait fit éclater de rire tous les convives. « Vous ne causez pas une demi-heure avec une bourgeoise sans qu'elle fasse apparaître son mari sous une forme quelconque, reprit Blondet, qui ne perdait rien de sa gravité. Mais si vous savez que votre femme, comme il faut, est mariée, elle a eu la délicatesse de si bien dissimuler son mari qu'il vous faudrait un travail de Christophe Colomb pour le découvrir. Souvent, vous n'y réussissez pas toute seule. Si vous n'avez pu questionner personne à la fin de la soirée, vous la surprenez à regarder fixement un homme entre deux âges et décoré qui baisse la tête et sort. Elle a demandé sa voiture et part. Vous n'êtes pas la rose, mais vous avez été près d'elle, et vous vous couchez sous les lambris dorés d'un délicieux rêve qui se continuera peut-être lorsque le sommeil aura de son doigt pesant ouvert les portes d'ivoire du temple des fantaisies. Chez elle, aucune femme comme il faut n'est visible avant 4 heures quand elle reçoit. Elle est assez savante pour vous faire toujours attendre. Vous trouverez tout de bon goût dans sa maison. Son luxe est de tous les moments et se rafraîchit à propos. Vous ne verrez rien sous des cages de verre, ni les chiffons d'aucune enveloppe appendue comme un garde-manger. Vous aurez chaud dans l'escalier. Partout des fleurs égayeront vos regards. Les fleurs, seuls présents qu'elle accepte, et de quelques personnes seulement. Les bouquets ne vivent qu'un jour, donnent du plaisir et veulent être renouvelés. Pour elle, ils sont comme en Orient un symbole, une promesse. Les coûteuses bagatelles à la mode sont étalées, mais sans viser au musée ni à la boutique de curiosité. Vous la surprendrez au coin de son feu, sur sa causeuse, d'où elle vous saluera sans se lever. Sa conversation ne sera plus ce qu'elle était la veille. Ailleurs, elle était votre créancière. Chez elle, son esprit vous doit du plaisir. Ses nuances, les femmes comme il faut les possèdent à merveille. Elle aime en vous un homme qui va grossir sa société. L'objet des soins et des inquiétudes se donne aujourd'hui les femmes comme il faut. Aussi, pour vous fixer dans son salon, sera-t-elle d'une ravissante coquetterie. Vous sentez là surtout combien les femmes sont isolées aujourd'hui. Pourquoi elles veulent avoir un petit monde à qui elles servent de constellation? La causerie est impossible sans généralité.
Oui, dit de Marsay, tu saisis bien le défaut de notre époque. L'épigramme, ce livre en un mot, ne tomba plus, comme pendant les 18e siècle, ni sur les personnes, ni sur les choses, mais sur des événements mesquins, et il meurt avec la journée. Aussi, l'esprit de la femme, comme il faut, quand elle en a, reprit Blondel, consiste-t-il à mettre tout en doute, comme celui de la bourgeoise lui sert à tout affirmer? Là est la grande différence entre ces deux femmes. La bourgeoise a certainement de la vertu. La femme, comme il faut, ne sait pas si elle en a encore ou si elle en aura toujours. Elle hésite et résiste là où l'autre refuse net pour tomber à plat. Cette hésitation en toute chose est une des dernières grâces que lui laisse notre horrible époque. Elle va rarement à l'église, mais elle parlera religion et voudra vous convertir si vous avez le bon goût de faire de l'esprit fort, car vous aurez ouvert une issue aux phrases stéréotypées, aux airs de tête et aux gestes convenus entre toutes ces femmes. Ah, fis donc, je vous croyais trop d'esprit pour attaquer la religion. La société croule et vous lui ôtez son soutien. Mais la religion en ce moment, c'est vous et moi, c'est la propriété, c'est l'avenir de nos enfants. Oh, ne soyons pas égoïstes. L'individualisme est la maladie de l'époque, et la religion n'est le seul remède. Elle unit les familles, que vos lois désunissent, etc., etc. Elle entame alors un discours néo-chrétien, saupoudré d'idées politiques, qui n'est ni catholique ni protestant, mais moral. Oh, moral en diable! Vous reconnaissez une pièce de chaque étoffe qu'ont tissu les doctrines modernes aux prises. Les femmes ne purent s'empêcher de rire des minauderies par lesquelles Émile illustrait ses railleries.